Bonjour, je suis Cécile Palliès et vous écoutez un podcast du Réseau Santé Bruxellois enregistré lors d'un débat organisé autour de la sécurité des données santé partagées. L'enregistrement de notre vidéoconférence n'était pas destiné à réaliser un podcast, mais suite aux nombreuses demandes reçues, nous sommes heureux de partager avec vous ces moments malgré une qualité sonore imparfaite. Ce premier podcast va permettre de comprendre les fondements du partage des données santé. Vincent Claes, rédacteur en chef du Journal du médecin, mène le débat avec quelques questions essentielles. De quelles données s'agit-il? Où sont-elles hébergées? Et comment sont-elles partagées concrètement? Parmi les experts qui nous accompagnent aujourd'hui, Christine Debré, directrice du Réseau Santé Bruxellois, Mathilde Coueffé, coordinatrice hôpitaux généraux, Brecht Stup, directeur de l'information à l'INAMI, et Thibaut Duvillier, administrateur général adjoint de la plateforme IELS. Bonne écoute.
Où sont hébergées ces données de santé? On va commencer peut-être par Christine.
Les données de santé restent principalement hébergées dans les logiciels utilisés, enfin les logiciels et les serveurs hospitaliers, donc les logiciels et les serveurs utilisés soit par les hôpitaux, donc ça c'est pour le côté hospitalier, donc les données hospitalières restent hébergées au sein de chaque institution hospitalière. Alors du côté des médecins généralistes, on a mis en place un serveur qu'on appelle un coffre-fort sécurisé qui permet d'avoir les données des généralistes accessibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, même quand le desktop ou le laptop du médecin est éteint. Mais donc là aussi, ce qui est quand même important de savoir, c'est que ce qui est partagé ou ce qui est hébergé dans ces coffres-forts et donc partagé par la suite au travers des réseaux santé, c'est en fait une réplique, on va dire, d'une série de données qui ont été jugées les plus importantes pour le suivi du patient. Mais donc, ces données restent bien en possession, bien sûr, du médecin qui en est l'auteur. Ce n'est qu'un sous-ensemble de ces données qui est à disposition au travers du réseau santé bruxellois. J'espère que ça clarifie un petit peu les choses.
C'est encore une question. Est-ce que ces données sont transmises automatiquement depuis le cabinet du médecin généraliste vers votre fameux coffre-fort et depuis l'hôpital, et peut-être qu'après Mathilde pourra en parler, ou ça demande une interaction?
Alors, je ne suis pas sûre de comprendre exactement la portée de la question, mais il y a quand même un principe de base, un concept fondamental, qui est tout d'abord que le patient doit avoir donné son consentement, ce qu'on appelle un consentement éclairé, donc éclairé parce qu'on souhaite évidemment que les prestataires de soins informent correctement le patient quant au fait qu'il va marquer son accord pour que ses prestataires de soins, qu'ils soient hospitaliers ou extra-hospitaliers, puissent accéder à son dossier santé qui devient dès lors partagé. Donc, ça, c'est vraiment évidemment une condition fondamentale. Il y en a d'autres. Il y a d'autres collègues qui vont éclairer certains aspects. Mais pour y avoir accès, il faut aussi avoir déclaré une relation thérapeutique. Donc, pour nous assurer que ces données sont bien partagées dans le cadre de la continuité des soins, parce que c'est uniquement pour soigner le patient que les prestataires de soins ont le droit d'accéder à ces données.
C'est ça. Ouais. Mathilde, par rapport aux hôpitaux, à une époque, il y a eu à Bruxelles, mais aussi en Wallonie, des campagnes pour inciter les gens à participer, de donner leur consentement, comme l'a expliqué Christine. Ça continue ou est-ce que le consentement des patients est plutôt assez élevé depuis les années où ça a été lancé?
Oui, non, donc évidemment, toute la politique pour obtenir le consentement des patients est toujours de mise et il y a ce souhait de faire attention, et je pense que ce souhait augmente vraiment avec les situations, de faire attention à bien communiquer aux patients les informations qui sont nécessaires pour qu'ils puissent donner leur consentement. C'est sûr qu'au niveau hospitalier, la relation est un peu différente, dans le sens où on n'est pas directement face à son médecin, et au moment où on va donner son consentement, c'est au niveau des services des admissions, et donc c'est un rôle supplémentaire qui est donné à ces services des admissions, et donc il y a des brochures, à Brunet a vraiment été présent pour pouvoir donner les outils nécessaires aux institutions pour permettre aux patients qui viennent d'être informés le plus possible avant de donner leur consentement. Ce qui est peut-être intéressant aussi d'ajouter, c'est que toutes les données ne sont pas ne se retrouvent pas sur ces réseaux de santé. L'objectif vraiment de la création de ces réseaux de santé, c'était le partage de données pour assurer la continuité des soins. Et donc, au niveau des institutions hospitalières, il y a une sélection des données utiles pour assurer cette continuité des soins et le partage des données qui sont reprises. Donc, et ça, je pense qu'il faut bien être clair au niveau de l'information qui est donnée et de la communication. Ce ne sont pas toutes les données qui se retrouvent et donc ce n'est pas tout le dossier patient qu'on a sur ces réseaux.
C'est quoi ces données de santé? Quelles sont, enfin, d'illustrer par parce que données de santé, peut-être que ça ne parle pas à tout le monde. Qui veut se lancer dans une énumération de quelques données de santé qui se retrouvent sur le réseau, par exemple?
Bon, mais d'abord, je pense que la plupart des citoyens ont un médecin généraliste. Ces médecins généralistes peuvent héberger dans notre fameux coffre-fort un résumé du dossier santé qu'ils tiennent. Donc, c'est ce qu'on appelle le SUMAIR, pour ceux qui sont déjà venus consulter leur portail personnel de santé. Au niveau hospitalier, on peut accéder à des rapports de consultation, des lettres de sortie après une hospitalisation, des résultats de laboratoire, prise de sang, etc., des protocoles d'imagerie, donc protocoles, pour ceux qui sont peut-être pas aussi familiarisés, ça veut dire simplement, on va dire, l'analyse des images, des examens, d'imagerie qui ont été faits. Et même pour certaines institutions, il y a même un accès aussi aux images elles-mêmes. Il y a aussi des notes qui peuvent être partagées aussi par différents prestataires de soins ou le patient lui-même. Voilà les principaux types de données santé partagées au niveau. Alors, il y a évidemment aussi les médicaments, le schéma de médication. Et de plus en plus, grâce à certains projets menés notamment au niveau de l'INAMI avec le projet Mes médicaments.
Vous parlez de la continuité des soins, mais en réalité, la qualité des soins dans son ensemble peut aussi s'en trouver améliorée. Il ne s'agit pas seulement d'aller d'un établissement de soins de santé à un autre, mais aussi de combiner toutes ces données pour offrir une meilleure prise en charge globale du patient. Bien sûr, il peut refuser de le faire. C'est ce qui est possible aujourd'hui. Le partage des données de santé ne permet pas seulement de vous rendre une fois dans un autre établissement de santé et que certaines de vos données soient consultées. Il s'agit également de la multidisciplinarité qui est beaucoup plus nécessaire aujourd'hui avec de nombreux patients malades chroniques et qui permet d'améliorer considérablement la qualité des soins. Le partage des données permet donc non seulement la continuité des soins, mais aussi la qualité des soins en général.
Le réseau des Bruxellois organise effectivement donc cette mise à disposition des données pour que le patient puisse lui-même les voir et rentrer les préceptes de soins pour la qualité des soins, comme on l'a vu au début, mais pas du tout, parce que parfois j'entends ça aussi, la mise à disposition, par exemple, de données auprès de l'industrie pharmaceutique ou des centres de recherche universitaires. On est dans tout autre domaine. Donc là, ici, il s'agit bien des données personnelles des citoyens dans le cadre de la qualité quotidienne des soins. Si on parle après, si on pourra revenir éventuellement après, mais si on parle de données qui seraient anonymisées ou pseudonymisées, etc., je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais qui seraient fournies pour des politiques publiques, pour des universités, pour l'industrie pharmaceutique, c'est un tout autre domaine. Donc, il ne faut pas non plus que le citoyen pense que le réseau des Bruxellois revendrait peut-être à un moment ces données à l'industrie pharmaceutique. Ce n'est pas du tout le cas.
Que peut regarder le patient lui-même lorsqu'il va sur le réseau santé bruxellois, par exemple?
Alors, la première chose déjà, c'est qu'il peut voir la liste de documents qui est partagée entre les membres de son équipe soignante. Ça, c'est déjà intéressant. Pour parler très simplement, on s'est déjà tous demandé à un moment ou à un autre, tiens, est-ce que mon médecin a reçu ma prise de sang? Ben voilà, grâce au réseau santé bruxellois, on peut aller se connecter dans sa partie privée, donc son portail personnel de santé. Si le résultat de la prise de sang est là, ça veut dire que le médecin l'a reçu. Donc, c'est pas à peine d'appeler 3 fois le médecin avant. Et on peut alors, la plupart des résultats de laboratoire sont accessibles. Donc, le patient peut alors ouvrir le document et aller découvrir le résultat. Alors, la plupart des résumés hébergés sur le réseau santé bruxellois par les médecins généralistes sont bien accessibles aux patients, sauf exception. Et de plus en plus de documents hospitaliers sont maintenant accessibles aux patients. On progresse, je dirais, chaque mois. Ça va vraiment, et maintenant vraiment une 7 hôpitaux généraux sur 10 qui sont vraiment dans un processus vraiment d'ouverture. Je peux dire qu'il y a un gros tiers des documents publiés depuis un an environ qui sont accessibles aux patients.
Peut-être encore une petite précision par rapport au réseau santé bruxellois. Il n'y a pas qu'un seul réseau en Belgique, parce que c'est aussi l'intérêt, évidemment, de ces réseaux, c'est de communiquer entre eux. Peut-être rappeler comment ça fonctionne.
Oui, tout à fait. Alors déjà, peut-être dire que les réseaux santé, en tout cas le réseau santé bruxellois, a vraiment été créé par et pour des médecins qui sont tenus au secret professionnel. Donc, on a vraiment ça dans notre ADN, évidemment, de protéger le secret médical. Et alors, ces réseaux santé sont en effet interconnectés, ce qui fait que si, par exemple, un patient bruxellois qui a différents documents qui proviennent, par exemple, d'hôpitaux ou de son généraliste, admettons qu'il est diabétique, s'il a un accident à Ostende, voilà, le médecin urgentiste sera alors en capacité d'accéder au travers du réseau santé auquel il est connecté en Flandre. Il pourra venir consulter le dossier du patient et, par exemple, découvrir que, ah ben oui, il est diabétique, donc peut-être que, voilà, il a fait une hypoglycémie, ce qui pourrait expliquer, etc., ou au contraire, avoir accès à d'autres éléments importants. Donc, tous ces réseaux sont interconnectés, ça, c'est vraiment fondamental.
Pour bien comprendre l'architecture, il y a un réseau wallon, un réseau bruxellois et un réseau flamand.
Il y a en effet un réseau santé bruxellois, un réseau santé wallon et deux réseaux santé flamands.
Ce podcast vous a plu ? Écoutez nos 5 autres podcasts relatifs à la sécurité des données santé partagées. Ils traitent des conditions d'accès aux données, de la notion de consentement au partage des données, de la sécurité des systèmes et de l'accessibilité de ceux-ci à tous les patients, ainsi que de la deuxième vie de nos données santé. À bientôt !